Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous pour un mag mi-studio, mi-reportage autour d'architecture, autour de bois d'œuvre. Et aujourd'hui, on est avec Léa Gérardin-Macario, archéologue du bâti. Bonjour Léa.
Bonjour.
On va parler d'EFICLIC, science du passé. C'est en fait un appel à projet de la région, initié par la région, qui réunit énormément de partenaires sur un territoire. On va parler bois d'œuvre sur l'ensemble de la région. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est ce projet ?
Alors c'est le projet BOSCA, qui s'appelle un acronyme pour bois d'œuvre, sylviculture et acheminement, qui regroupe donc des laboratoires du CNRS, l'université, la région Occitanie, l'inventaire, des associations. Et le but, c'est de travailler tous ensemble sur une thématique, le bois d'œuvre ancien, donc depuis la gestion des forêts anciennes, le transport de ce bois d'œuvre à travers la région et sa mise en œuvre donc dans les monuments anciens disséminés dans la région.
Et vous, vous êtes penché plus particulièrement sur le sapin. Le sapin, il n'y en a pas dans le coin.
Voilà, c'est ça, tout à fait. On s'est mis à chercher du sapin en Tarn-et-Garonne. Et en effet, le sapin en Tarn-et-Garonne, il ne pousse pas ici. Donc, il a fallu essayer de trouver des monuments qui pourraient répondre à notre question. Donc, des grands monuments, avec des grandes charpentes, qui étaient susceptibles d'être obligés de faire venir des bois spéciaux, très grands et en grande quantité, depuis assez loin, c'est-à-dire les Pyrénées.
Pour ça, vous avez fait le détour par la cathédrale de Montauban, par un château.
C'est ça, le château de Castelferrus, dans la vallée de la Garonne.
Et au palais épiscopal. Alors justement, on va vous entendre avec une dendrochronologue en train de chercher du sapin. Avant ça, vous êtes basée donc sur des archives pour trouver ce sapin.
Alors, on fait un peu tout en même temps. On fait aussi bien la prospection sur le terrain pour trouver les bâtiments et les structures anciennes et en archive. Une fois qu'on trouve un monument qui répond un peu à nos problématiques, on va essayer d'aller voir les archives. Alors là, on l'a fait que pour la cathédrale et le palais épiscopal, parce que c'était vraiment les grands monuments phares du projet et qui étaient susceptibles d'avoir des dossiers documentaires importants. Et là, les archives, en particulier de la cathédrale, étaient extrêmement riches parce qu'il y a des milliers de pages de comptes de construction à la semaine. Et ils nous parlent justement de leurs fournisseurs de sapins pour la construction.
Et là, la cathédrale, elle a été construite sur une demande de Louis XIV. On est à cette époque. Hein.
C'est ça, tout à fait. La cathédrale de Montauban, c'est la toute fin du XVIIe siècle. Le projet commence dans les années 1690 et il est achevé, elle est achevée, la cathédrale, en 1739 précisément. On est globalement pendant le règne de Louis XIV. Et c'était une volonté du roi de France dans la Montauban protestante d'affirmer le pouvoir royal et catholique par cette cathédrale qui est créée ex nihilo, donc là où elle est maintenant à Montauban.
Là où il n'y a pas de sapin. Donc, chaîne d'approvisionnement du sapin, ils les envoyaient depuis les Pyrénées en flottant sur l'eau. Alors, vous allez préciser ça beaucoup mieux que moi. Je fais un petit teaser là. D'abord, on va faire le détour par donc le palais épiscopal qui abrite le musée Un Gros Bourdel en reportage donc avec une dendrochronologue. Et ces sapins arrivaient marqués. Ils avaient des marques sur le tronc. Si ça vous a permis toute cette datation de nouveaux référentiels, on parle tout de suite dendrochronologie en reportage avec vous, Léa.
Alors, on est ce matin au musée Un Gros Bourdel. On a retrouvé des dendrochronologues. Il y a Roberta D'Andrea, dendrochronologue pour le CNRS à Toulouse. Bonjour Roberta.
Bonjour.
Et Samuel Gauthier qui est stagiaire avec Roberta. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Merci. Donc on a rejoint Eric Dauche, responsable de la sécurité du site du musée Ingres-Bourdelle et de la maintenance, qui va nous escorter jusque là-haut dans la charpente, parce que pour aller dans la charpente, on est obligé de traverser le musée et on peut pas le faire comme ça librement. Donc bonjour.
Bonjour, bonjour. Bonjour à vous trois. Enchanté de vraiment nous accueillir pour cette deuxième journée de deuxième opération de recherche.
Oui. C'est ça, tout à fait. On était déjà venu une fois, donc là avec la dendrochronologue que vous aviez rencontrée, et maintenant avec son stagiaire, Samuel Gauthier. Donc on vous suit.
Ouais, on va aller dans les combles du musée.
Merci. Donc nous voilà tout en haut, on a monté l'escalier en vis de du pavillon sud-ouest, on est presque au-dessus du Tarn. On est arrivé donc dans une charpente à chevrons formant ferme, qui est grande, qui est assez impressionnante, très très pentue. Qui coiffe la tour sud-ouest. Donc on était déjà venu l'année dernière pour faire les prélèvements dendrochronologiques, et là on avait besoin de revenir parce qu'entre temps on avait quand même vu d'autres édifices, et surtout on avait repéré des marques de marchands sur les pièces de bois d'œuvre. Et là on avait besoin de revenir les étudier un petit peu plus en détail, parce que la première fois on les avait regardés rapidement. Et on va aller les pointer un peu sur notre croquis, les prendre en photo. Et toi, Roberta, tu voulais aussi vérifier avec les prélèvements qu'on avait fait, ceux qui avaient marché.
Vérifier les dates qu'on a réussi à obtenir de l'étude dendrochronologique, et aussi de voir s'il y a des marques spécifiques associées à des dates spécifiques. Voilà, pour l'étude de provenance du bois de sapin, quoi.
Oui, parce qu'ici la charpente elle est entièrement faite en sapin, et ce qui nous intéresse c'est que le sapin ça pousse pas à Montauban, a priori il vient des Pyrénées. Là le palais épiscopal il a été construit au XVIIe siècle, donc là ce qui nous intéresse nous c'est savoir comment au XVIIe siècle on se débrouille pour faire venir du sapin des Pyrénées jusqu'à Montauban. Et alors sur les datations, là on est en train de regarder le tableau, sur les 15 prélèvements qu'on a fait,
il y en a que 5 qu'on a réussi à dater. Le CERN le plus récent, ça date du 1655. Et voilà, donc c'est du bois qui était potentiellement flotté sur la Garonne et après transporté jusqu'à Montauban. Mais on veut savoir quelque chose de plus, enfin la vallée exacte de provenance. Et pour ça, on va croiser les données dendrochronologiques avec les données archéologiques, donc des marques. Et voilà, des marques qu'on trouve sur le bois.
Ok, du coup là tu disais 1655, donc pour le dernier cerne mesuré, c'est parce qu'avec la dendrochronologie donc on arrive à caler quand on a toutes les quand ça marche bien, on arrive à caler la date. Une date de, alors parfois d'abattage à l'année près de l'arbre. Donc ça, c'est souvent le chêne, dans le cas du chêne. Voilà. Dans le cas du sapin, des fois, c'est un petit peu plus... On n'est pas forcément à l'année près. Bon, ça, c'est des particularités. Et donc là, ici, 1655, quand même, ça cadre assez bien avec ce qu'on connaît du palais épiscopal et de sa charpente, puisque le bail... qui est passé devant nos terres pour construire la charpente, il est des années 1665. Donc ça fait une fenêtre de 10 ans à peu près, et donc ça c'est correct pour ce que donne comme résultat le sapin en général. Donc là, ce qui est intéressant pour nous, c'est que la dendrochronologie, elle vient confirmer un peu ce qu'on savait par les textes, et c'est toujours intéressant d'avoir cette confirmation. Peut-être là ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est comme ce qu'on avait fait à la cathédrale, tu sais, on va numéroter, on va mettre des petits numéros sur notre papier qu'on va reporter après sur le croquis et prendre en photo systématiquement les marques qui vont, comme ça on se repérera. Ça...
D'accord, oui, c'est une bonne idée.
Alors, hop, oh, des punaises mortes. Je vais le mettre dans sa boîte. Lui.
Tu sais qu'il y a de la poussière. La dernière fois, c'était infernal parce qu'on faisait les prélèvements.
Ouais.
Et il y avait tellement.
En fait, on n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres.
Mmh.
En fait, là, pour l'instant, ça va, mais au fur et à mesure, plus on va marcher dans la laine de verre, plus il va y avoir de la poussière. Et ça va devenir... Ça peut devenir...
Alors là, on a repéré une marque sur une pièce de bois, une sorte de dé dans un cercle. On va épousseter. Pour essayer de mieux voir cette marque et ensuite pouvoir la prendre en photo et la comparer aux toutes les autres marques qu'on repère ici et dans les autres bâtiments qu'on étudie pour le projet Bosca.
Allez hop. On range et on redescend.
De réparer un peu le monde.
Léa Jardin-Macario, archéologue du bâti pour le service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy, nous emmenait au palais épiscopal de Montauban au musée Ingres-Bourdelle parler d'androchronologie. On rappelle que vous travaillez en ce moment sur le bois d'œuvre sur toute la région grâce à un projet de la région Occitanie, Défi Clé Science du Passé. Vous travaillez donc sur la chaîne d'approvisionnement du sapin. Du sapin, on a vu donc qu'il y en avait au musée, au palais épiscopal. Vous avez réussi à le dater, ce qui a permis de nouveaux référentiels. C'est à ça que ça sert, la dendrochronologie. C'est comme ça que ça marche.
Oui, exactement. Parce que, par exemple, à la cathédrale, il y avait déjà eu une première campagne de datation qui avait été faite il y a une dizaine d'années par la région Occitanie pour l'inventaire du patrimoine. Et ça avait été un flop. Ça n'avait pas marché. Les résultats, zéro résultat. La dendrochronologie, c'est un peu comme ça. C'est une science qui est fondée sur la statistique. Et en fait, pour pouvoir fonctionner, il lui faut beaucoup de données pour pouvoir comparer un maximum de... Donc, c'est des courbes de datation entre elles.
Et
pour
comparer les cernes, en fait. Hein, c'est ça. Parce que les cernes sont en fonction de la pluie et du beau temps, et donc forcément du lieu. Et oui. En fait, en comparant les cernes, on voit d'où ils viennent et de quand. Et quand ils ont été coupés.
C'est ça, exactement. Mais pour avoir un résultat solide, il faut beaucoup de données. Et donc, il y a une dizaine d'années, un petit peu plus d'une dizaine d'années maintenant, il n'y avait pas assez de données sur le sapin en Tarn-et-Garonne et dans la région Occitanie, partie ouest. Et maintenant, ça y est, grâce au projet Bosca, qui est allé donc prélever dans les monuments, mais qui est aussi allé prélever dans les arbres vivants dans les Pyrénées, a permis de reconstituer toute une chaîne de croissance, de cernes de croissance du sapin, et de pouvoir dater le sapin ancien. Donc là, à la cathédrale, on a réussi à avoir des dates sur certaines parties, donc qui correspondent à la construction, donc au début du XVIIIe siècle. Alors, la particularité du sapin, c'est qu'on n'a pas forcément des dates très 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 précise comme avec le chêne. Le chêne fonctionne mieux, c'est une particularité qui est due à la croissance des arbres qui ne grandissent pas de la même façon. Quand même, on a des bons résultats. Donc la cathédrale, pour des parties donc, du début du XVIIIe siècle, et donc le palais épiscopal dont on a parlé de la deuxième moitié du XVIIe siècle.
Et en fait, ces sapins ont été importés.
Oui, exactement. Donc ces sapins, ils ont été importés des Pyrénées parce qu'à cette période-là, à l'époque moderne, et probablement dès le Moyen-Âge, mais on en a moins de traces, il y a tout un système de gestion des forêts dans les Pyrénées où on fait grandir des sapins qui sont des arbres qui grandissent très vite, très droit, très haut. Donc c'est super pour construire. Vous avez un bois qui est prêt à bâtir assez vite et de qualité. Donc, ils gèrent des forêts là-bas dans les Pyrénées. Donc, c'est vraiment des forêts plantées, c'est des forêts créées par l'homme, hein. C'est pas du tout de la forêt primaire. Et ensuite, il y a tout un réseau de marchands qui va faire descendre ces bois des montagnes, qui va les réceptionner sur la Garonne, en haute vallée de la Garonne, donc près des Pyrénées, en faire des radeaux. Donc ils ont débité les troncs, ils leur ont enlevé les branches, l'écorce en général, ils sont un petit peu pré-taillés, et là ils les forment en radeaux, liés les uns aux autres, qui forment ensuite des trains. On appelle ça des trains de bois, puisqu'on accroche plusieurs radeaux les uns derrière les autres. Et ensuite, là, c'est parti, ça descend la Garonne jusqu'à Toulouse, qui est un gros point de distribution. Puis, ça peut aller jusqu'à Bordeaux, éventuellement comme ça, en radeau.
Et ces radeaux, on en voit encore les traces très, très concrètement quand on regarde les charpentes.
Exactement. Et c'est ça qu'on cherche justement dans ces grandes charpentes anciennes, puisque elles sont très grandes. Il faut du bois spécial, et donc souvent ces grands sapins qui arrivent par radeau. Et ce qu'on trouve, ce qu'on cherche, c'est donc des gros trous dans lesquels il y a encore des branches coincées, donc qui étaient les liens qui permettaient de lier un tronc à l'autre, qui sont disposés de manière assez serrée. On voit comment ils ont passé les liens. Et les becs de flûte, le nom est amusant, mais en fait, c'est le bout de la grume, donc le bout du tronc, qui est taillé donc vraiment comme, vous voyez, la flûte à bec. Hein, voilà. Et ça permet, quand le radeau descend et qu'il arrive dans des fonds un petit peu plat, quoi, de ne pas buter, de ne pas se retrouver coincé dans les rochers, comme la pointe du tronc fait que hop, il peut passer un peu les endroits. Et ça, on le retrouve dans la charpente. Donc ça, c'est les indices un petit peu qui sont efficaces pour déterminer qu'il y a des radeaux là. Et ces radeaux, ensuite, en fait, en quelque sorte, on pourrait les reconstituer. Ils sont disséminés dans la charpente. On pourrait essayer de reprendre chaque pièce et les remettre bout à bout pour refaire un radeau.
Parce que c'était un vrai commerce, et donc chaque pièce est marquée du sceau de son propriétaire. Oui. Et il y en a plein.
C'est ça. Alors, il devait y avoir des chaînes, parce qu'en fait, il devait peut-être des marchands consécutifs qui réceptionne les pièces et qui les renvoie ensuite de port à port, ou peut-être plusieurs marchands qui se mettent ensemble pour envoyer des radeaux. Bon, ça, on n'a pas encore fini de travailler sur ces questions-là, voir comment ils s'organisent. Mais en effet, ce qu'ils ont, c'est des marteaux, probablement métalliques, et ils frappent les pièces de bois. Alors, en général, ils ne la frappent pas une fois, ils la frappent plutôt 25 fois.
C'est à moi.
Plutôt 25 fois qu'une, voilà. Avec, en général, alors c'est leurs initiales, A et P. Alors, des fois, c'est dans un petit cœur.
Ouais, c'est hyper beau.
Oui,
hein,
il y a des petites étoiles. Parfois, on dirait un panneau de stop. Il y en a où c'est un hexagone avec souvent des initiales. Et voilà, et ça, c'est vraiment leur marque distinctive, parce que quand les grumes arrivent dans les ports, faut imaginer, il y a pas un train de bois qui arrive par jour à Toulouse. Il y en a énormément quand c'est la saison, parce que c'est un travail saisonnier. Faut qu'il y ait de l'eau dans la Garonne. Et quand ils arrivent, mais c'est par dizaines de milliers. Donc, il faut ensuite, les radeaux sont démontés, ils sont stockés sur les berges. Il faut qu'ensuite le marchand puisse venir retrouver ses petits. Donc, et en théorie, au départ, ils ont tout marqué.
On importe donc les énormes poutres de sapin pour construire le palais épiscopal de Montauban, la cathédrale, aussi divers châteaux, enfin, ce qui est d'époque. Hein. Et encore une fois, là, on est début du XVIIe.
Oui, du XVIIe. On a même des traces au XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Ils pratiquent ça, et c'était probablement déjà pratiqué au Moyen-Âge, seulement on a beaucoup moins de charpentes médiévales qui nous permettent de voir ces traces-là.
Mais pourquoi diable faisons-nous venir le sapin d'aussi loin ?
Alors, parce que malgré tout, bien qu'il vienne de très loin et qu'il y ait beaucoup d'intermédiaires, on l'a dit, il y a probablement plusieurs marchands, ça revient quand même moins cher que de faire venir du chêne de plus près. Alors, en partie parce qu'en fait, le transport sur voie d'eau coûte pas très cher. C'est vraiment c'est l'autoroute des anciens temps, si on veut, la Garonne. Ça coûte vraiment pas très cher, puis ils peuvent faire naviguer beaucoup de pièces en même temps. Donc les coûts sont vraiment réduits. Le sapin grandit vite et ils peuvent en produire beaucoup, donc les coûts sont aussi réduits. Par rapport aux chênes, qui, quand on veut du bois d'œuvre, il faut parfois 100 ans, voire 200 ans parfois, pour certaines pièces très particulières. Donc là, on imagine l'investissement pour un marchand de bois. Sur 100 ans ou 200 ans, c'est plusieurs générations de marchands en fait, ou d'exploitants de forêt qui doivent travailler là-dessus pour le chêne. Et surtout, le chêne, son gros inconvénient, quelque part, quand il en faut des grandes quantités et des très grandes pièces, c'est qu'il faut le faire venir par chariot. Et là, c'est un petit peu l'expédition, c'est le défi, le transport sur route. À l'époque moderne, entre le 16e et le 18e siècle, ça a l'air d'être vraiment une expédition compliquée et qui coûte cher et qui prend longtemps.
Vous avez même une lettre.
Oui, alors ça, c'est une archive. C'est le plaisir de quand on travaille sur les archives, c'est de tomber sur des lettres ou des éléments assez, on va dire, cocasses parfois. Donc là, c'est l'architecte de la cathédrale de Montauban, l'architecte, on va dire, conducteur de travaux. Donc celui qui réside vraiment à Montauban, parce qu'il y a aussi l'architecte du roi qui gère le projet, mais lui il est à Paris ou à Versailles. Et donc ils échangent tous les deux, ils s'écrivent des lettres pour savoir comment avance le chantier. Et donc le conducteur de travaux écrit à l'architecte du roi, « Il est à propos, monsieur, que je vous fasse remarquer les difficultés et quasi l'impossibilité qu'il y a de bâtir, comme il est expliqué dans votre mémoire. » Donc c'est en gros le devis de construction. « Par la difficulté qu'il y a d'avoir de la pierre de taille, pour du moellon, il n'y en a point. Ces pierres viennent de 10 grandes lieues d'ici, en gros 20 km, on va dire. Elles ne peuvent se voiturer que pendant 5 mois de l'année, qui sont mai, juin, juillet, septembre, octobre. Cette pierre ne peut se charroyer que par des bœufs et des vaches. Il leur faut 4 jours pour aller et venir quand ils trouvent la rivière Guéillable. » Donc ça veut dire qu'ils peuvent traverser la rivière, qu'elle est assez basse, qu'ils peuvent traverser la rivière avec les bœufs, les vaches, les chariots, la pierre, le bois, tout ce qu'ils doivent ramener. Et bien souvent, il leur faut 7 à 8 jours quand elle ne l'est pas. Donc l'architecte conclut là, on ne peut bâtir ici comme à Paris. En effet, à Paris, vous avez la pierre sous les pieds. Et ici, elle est obligée de venir d'un peu loin. Et ça met, donc vous voyez, entre 4 et 8 jours pour venir. Et ça leur coûte très cher. Et ça a l'air d'être une sacrée expédition. Et donc là, on a parlé de la pierre. Mais on sait aussi que pour la construction de la cathédrale, il y a un charpentier de 7 fonds. Donc, pour le coup, vraiment dans le coin ici du Quercy, qui lui fournit le chêne. Parce que certaines pièces très particulières sont en chêne, parce que c'est quand même une essence qui est très solide et qui est valorisée pour certaines pièces de la charpente. Donc pour certaines, ils sont prêts à mettre le prix, d'aller chercher du chêne, même s'il faut faire 30 km avec les bœufs.
15 lieues. On peut donc voir qu'à travers toute cette chaîne d'approvisionnement autour du sapin, à travers toute la construction de nouveaux édifices, ce sont des métiers qui sont représentés, des sciences, et puis c'est des faits de société qui sont dévoilés, révélés.
Oui, c'est vrai. Voilà, en partant d'un monument quelque part et en cherchant donc par les archives ou dans le monument lui-même, en étudiant chaque pièce, toutes ses caractéristiques et d'où elle provient, comment elle a été emmenée là, en fait, on arrive à voir comment s'organise en gros une société en entier. Donc, on a parlé voilà de ces chaînes d'approvisionnement, de ces forêts qui sont plantées et gérées, et on voit que c'est plus que juste l'échelle d'un édifice en particulier. C'est toute la société qui fonctionne comme ça. Et aussi, ça permet de voir qu'à l'époque moderne, par exemple, les forêts de chênes localement, ici, qu'on avait ici au Moyen-Âge, si vous voulez, elles ont en partie disparu. parce qu'on est obligé d'aller chercher le bois loin, mais aussi parce qu'en fait, dans nos forêts de chênes ici, l'économie a changé. On valorise plus forcément le bois d'œuvre, on va plutôt valoriser l'industrie, le bois de chauffage, le charbonnage, la chaux. Donc le paysage a changé, la société a changé, et donc elle a impacté directement son environnement. L'environnement a changé. Et on voit que voilà, c'est toute la société qui fonctionne. On voit un fonctionnement, pardon, de toute la société, pas juste la construction d'un monument. On peut vraiment apercevoir comment fonctionnait la société et ce qu'elle a fait de son environnement à ce moment-là.
Merci beaucoup pour cette nouvelle fenêtre. Léa Gérardin Macario, archéologue du Mati pour le service inventaire du pays Midi-Quercy.
Merci à vous, à bientôt.
Les capsules du patrimoine, c'est tous les mois sur CFM Radio et quand vous voulez, en podcast sur le site cfmradio.fr.